Émission On en jase à l'antenne de Boulevard 102.1. Il est présentement 13h08. C'est une très, 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 très belle journée sur Québec. À la météo, c'est 18 degrés ensoleillé aujourd'hui. 17 degrés plein soleil samedi, 20 degrés plein soleil pour dimanche. Donc, on va avoir un très, très beau week-end. Avant d'aller rejoindre notre ami Lambert de Rainville, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité? Il y a notamment un pont de Québec qui tombe sur des gens qui, là, va être fermé.
Ouais, celui où la citoyenne l'accusait, en fait, de se faire vider une chaudière de roche à tête quand elle passait sur le pont de Québec, a fait bien réagir cette semaine. Hein? Mais le pont de Québec sera encore fermé à la circulation. Ça va être pour tout le week-end des entraves majeures qui sont prévues aussi dans le secteur Sainte-Foy pour le pont. Il va falloir s'armer de patience parce que c'est complètement fermé dans les deux directions toute la journée de demain, donc de samedi à partir de 7h. Et ce sera aussi fermé dimanche matin jusqu'à 10h. Donc, à partir de 10h dimanche, vous allez pouvoir circuler sur le pont de Québec. Rappelez-vous seulement de cette information-là, vous allez vous en sortir un peu mieux. On dit que le trottoir va rester ouvert pour les piétons et les cyclistes. Pour le boulevard Laurier, bien, c'est toute la fin de semaine où ça sera fermé en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie. Et pendant la fermeture, le trottoir est aussi fermé. Alors, passez pas par là, finalement, tout simplement. Vous allez devoir emprunter le trottoir de l'autre côté du boulevard. L'accès au commerce, ça va se faire, mais vous savez comment c'est difficile. Il faut prendre le boulevard Hochelaga. Sinon, course à la mairie de Québec, Sam Hamad tranche. Il revient un peu sur ce qu'il avait déjà affirmé. Le
ben
fait
oui,
qu'il
hein.
allait solliciter un seul mandat si jamais il était élu. Mais là, il est vraiment revenu avec cette information-là. Il tranche pour un seul mandat. Il a lancé sa campagne officielle aujourd'hui avec une équipe incomplète, par exemple, à la suite du désistement d'une candidate. Et il dit qu'il va être là pour un an si on l'amène à diriger la ville de Québec. La santé publique déclenche une enquête sur la SLA dans Charlevoix. On a demandé ça. Plusieurs citoyens... Et même que Christian Dubé, ministre de la Santé, avait perdu quelqu'un de près de lui dans les dernières années pour la SLA. Puis il s'est dit, OK, c'est vraiment particulier qu'au moins 24 habitants de Charlevoix-Est ont développé la maladie depuis l'an 2000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on a ouvert une enquête, la Santé publique de Québec qui a déclenché tout ça. C'est multiplication des cas. On veut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Y a-t-il des choses qu'on peut éviter? Très important et honnêtement, assez fulgurant à constater. Puis peut-être que je vais faire un clin d'œil à ce qui se passe du côté du fiasco de la SAQ Clique avec la commission Galant. Je sais qu'on va aller en parler avec Lambert, mais Carl Malenfant n'a vraiment pas une belle journée. Il a été surpris à mentir. Il a eu chaud. On a demandé une pause vraiment loin d'être facile.
On va justement rejoindre Lambert Drainville, notre chroniqueur politique et excellent vulgarisateur. Lambert, dans quel habit t'es mieux être? Celui de François Legault ou Carl Malenfant?
Il y a une troisième option. Hein, aucune quand...
mais pourquoi tu ne veux pas être dans un de ces deux habits-là? Explique-moi, Lambert.
Hein, honnêtement, par contre, si j'ai à choisir, je prends quand même François Legault, là, dans le sens que son intégrité n'est pas mise en question. Bon, ça va mal politiquement et on va en parler, mais M. Malenfant, l'étau se resserre. Puis, écoute, on pourra en reparler plus tard, là, mais bien honnêtement, c'était à se demander s'il n'avait pas témoigné plus tôt, s'il n'avait pas témoigné avant le remaniement ministériel, si on aurait eu les conséquences qui ont suivi par rapport à M. Bonnardel, par rapport à Mme Guilbeault qui a perdu son titre de vice-première ministre. Bref, ces questions-là se posent. Là, mais,
Ben, c'est bien que tu nous amènes là-dessus, tu nous amènes dans un angle politique. Tout à l'heure, avec Nicolas La Chance, Journal de Québec, on est allé vraiment sur l'angle commission, ça clique et fiasco, responsabilité de Carl Malenfant. Est-ce que le PM s'était obligé à faire un remaniement ministériel en ayant parlé le 30 juin dernier? Puis est-ce que, compte tenu du délai que la commission Galant, il a été pris de court?
Oui, parce que je pense que c'était pas prévu initialement, lui, qui allait comparaître le premier ministre. Je pense qu'il y a eu des ajouts, son directeur de cabinet également. Les plans ont changé en cours de route. Puis c'est à la discrétion du commissaire de demander à qui, bon, lui semble, de témoigner quand bon lui semble. Et Malenfant avait été gardé pour la fin parce que c'était celui... dont le nom était le plus ressorti en termes... Puis c'est lui d'abord qui pilotait, là, en étant le vice-président aux technologies de l'information. C'est lui vraiment qui pilotait le fameux projet CASA dont découlent ces énormes dépassements de coûts. Et donc, c'était difficile pour le premier ministre qui avait d'ailleurs annoncé son remaniement vraiment tôt d'avance, 3 mois d'avance au mois de juin, disons, de bâtir sa stratégie là-dessus parce que c'était pas prévu initialement qu'il témoigne.
C'était pas prévu, ça a été fait. Au niveau également de d'autres témoins, ça semble être plus volumineux, plus difficile que l'on pensait. Ça semble très, très chaud, puis clairement, on ment devant la commission Galland, mais pourtant, on le fait sous serment. Lambert, comment c'est possible?
Ben c'est possible, je veux dire, c'est ça qui est ça.
Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est ça que tu as
dit? Oui, exact. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, il a menti. Sous serment. On verra ce qui en découle par la suite, mais on s'entend que depuis le début, avant même qu'il mente officiellement comme aujourd'hui, c'était extrêmement glissant. On voyait qu'il avait chaud. On voyait qu'il souhaitait imposer son narratif. Fait que le commissaire l'a remis à l'ordre à de nombreuses reprises, lui demandant simplement de répondre aux questions. Le gars essayait vraiment présenter sa propre réalité. En répondant à la réalité qu'évidemment le procureur essayait de monter. Bien honnêtement, c'est extrêmement difficile. Puis n'importe qui a pris une demi-heure pour regarder cette commission-là. Puis bien franchement, tu pourrais quasiment l'écouter sur mute.
Tu sens le malaise, tu sens que ça fonctionne pas, qu'on est stressé.
Non, il est stressé. Puis écoute, il était préparé. Là. Ça fait des semaines que ses avocats le préparent. Mais à un moment donné, que veux-tu? Le commissaire Galland et son équipe aussi ont eu beaucoup de temps pour se préparer pour ce témoignage-là. Clairement, il l'était. Et comme je disais au début, l'étau visiblement se resserre. Puis ça va être intéressant de voir quelle va être la suite des choses dans son cas parce que c'est pas une commission, c'est pas un tribunal dans lequel peuvent être déposées des accusations criminelles. Mais ça n'empêche en rien que s'il y a des informations là-dedans qui sont de nature à possiblement déposer des accusations criminelles, c'est quelque chose qui pourrait suivre en deuxième temps. Moi, c'est quelque chose que je vais regarder de près parce qu'à un moment donné, là, il y a des maudites limites, il y a des gens qui doivent être tenus responsables. Puis quand t'as des chargés de projets comme ça, qu'ils soient des politiciens ou qu'ils soient, dans ce cas-ci, des gens de société parapublique, prennent l'argent des contribuables et les jettent par les fenêtres de cette façon-là, selon moi, il y a des gens qui doivent être tenus responsables, alors je vais suivre ça de près. Là.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Karl Malenfant est arrivé avec son petit sourire arrogant et là, présentement, ce sourire-là est complètement disparu. Je fais le pont avec le départ de Maïté Blanchette-Vézina hier du caucus des députés de la CAQ. Est-ce qu'un témoignage comme Karl Malenfant pourrait justement amener François Bonnardel à claquer à la porte en disant hey, « j'ai été traité injustement par mon premier ministre ». Je m'en vais. C'est quoi que t'entends, toi, à l'intérieur?
Non, je pense pas. Je pense pas. Ça jouera pas à ce niveau-là. S'il y a de quoi, ça va juste renforcer le narratif que le premier ministre avait déjà un petit peu installé, c'est-à-dire, oui, on n'est pas plus blanc que neige. Mes ministres auraient pu poser des questions. Moi-même, mon cabinet aurait pu poser plus de questions. Mais ce que lui dit, c'est que les grands responsables de ce fiasco-là, c'est d'abord et avant tout les gens à la SAQ. Et ce qu'on entend présentement, c'est que c'est effectivement le cas. Non, pour ce qui est de Maïté Blanchette-Vézina, ça a été une journée très, très éprouvante pour le premier ministre hier, là, d'un point de vue politique, mais d'un point de vue personnel aussi. Là, il y avait le caucus des députés, le caucus qui devait se tenir il y a la semaine dernière ou l'autre d'avant, qui avait été repoussé à cause du remaniement ministériel. Un caucus, ça se passe toujours en deux parties. Tu as la première partie qui est vraiment des présentations. Le premier ministre, les différents ministres responsables des dossiers vont présenter des PowerPoints, des projets de loi. Dans ce cas-ci, il était question des quatre priorités que le premier ministre a mentionnées en même temps que le remaniement sur lesquelles il veut mettre l'emphase d'ici à l'élection de 2026, donc l'efficacité de l'État, l'économie, la sécurité et tout le dossier identitaire. Mme Blanchette-Vézina était absente de l'avant-midi, est arrivée en début d'après-midi de ce qu'on me dit et elle s'est assise, comme d'habitude, avec les autres élus, a écouté les différentes présentations jusqu'à temps qu'on arrive au moment qui s'appelle le huis clos. Donc, le huis clos, c'est la partie du caucus où tous les employés politiques, les gens qui ne sont pas élus, quittent la pièce et demeurent dans cette pièce-là, le premier ministre et les députés seulement. Et c'est à ce moment-là que des députés évidemment, là, ça demeure une période assez difficile pour le parti. Fait que là, c'est l'espace qu'ont les élus pour faire part de leurs interrogations, de leurs craintes. Donc, certains élus sont allés au micro et venue finalement Mme Blanchette-Vézina qui n'est pas allée de main morte, disons ça comme ça. Là. Ce qu'elle a dit en point de presse par après, c'est essentiellement ce qu'elle a dit au visage du premier ministre, qui était également devant tous ses employés. Fait que elle a dit que tout l'aspect régional n'avait pas été assez tenu en compte dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Elle a dit que des projets dans les centres urbains comme le troisième lien, comme le port de Montréal, avaient été mis de l'avant au profit de projets plus régionaux comme l'élargissement de l'autoroute 20, la desserte maritime dans l'Est. Elle a également parler de la représentation des ministres de région au sein du Conseil des ministres, disant que selon elle, c'était inacceptable que, par exemple, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, ce gros territoire-là, n'ait qu'une seule ministre, Mme Dionne, que l'Abitibi n'ait pas de ministre, que l'Outaouais n'ait qu'un seul ministre. Elle a dit au premier ministre que la place des femmes dans le nouveau Conseil des ministres, c'est absolument inacceptable, qu'on ait seulement 12 femmes sur un total de 29 ministres. Et je te dirais, la cerise sur le sundae, c'est l'attaque qu'elle a eue contre son propre leadership là, en lui disant que, disons, une retraite, ça se planifie. Un chef doit savoir le moment de préparer la relève pour assurer la continuité de ce qu'il a bâti. J'invite le premier ministre à réfléchir à son plan de relève. Et donc, très cinglant, au visage du PM, elle quitte la pièce par la suite. Et là, le premier ministre était très, très, très shaké par ce que venait de lui lancer son ancienne ministre. Et il y avait un énorme, énorme froid dans la pièce.
Est-ce qu'il y en a à ce moment-là, Lambert, qui prennent la parole pour rassurer le premier ministre? T'sais, comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui en profitent pour se lever et dire « Elle a raison! »
Non, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que bon, le premier ministre était vraiment, comme je te dis, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, je pensais qu'il allait faire une crise de cœur. Il était vraiment shaké. Et là, il a dit, c'est terminé, le caucus est fini, on termine ça de même. Il n'y a pas question de continuer. Et c'est là qu'il y a d'autres élus qui se sont approchés du micro pour dire, écoutez, monsieur le premier ministre, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui est facile à entendre, mais nous autres, on est là, puis nous autres, on croit encore à vous, les femmes du caucus, parce qu'évidemment que la...
T'as-tu des noms à nous nommer qui ont dit?
Non, j'ai pas de nom, mais c'est plus pour vous donner un portrait un petit peu.
Oui, non, je comprends très bien. Est-ce que c'est une première, Lambert, une sortie aussi fracassante, t'es en plein caucus de députés comme ça?
Je sais pas si c'est une première, mais chose certaine, c'est quelque chose qui est extrêmement rarissime, là. On se rappellera en 2011, alors que Pauline Marois était chef du PQ, mais était toujours dans l'opposition. Il y avait eu tout le dossier du financement de l'amphithéâtre à Québec, justement. Et il y avait eu une grosse vague de départ là, d'élus péquistes à ce moment-là.
Notamment Louisette Lapointe, Pierre Curzi.
Louise Beaudoin, exactement. Fait que ça, c'est le dernier, je te dirais, épisode de cette nature-là que moi j'ai en mémoire. Mais chose certaine, ça a vraiment été un moment qui a été difficile pour le premier ministre. Et là, la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que c'est le premier domino d'une série qui tomberont?
Ouais, puis aussi, moi, la question que j'ai, c'est comment le premier ministre peut se relever de ça?
Bien, c'est ça qui... La suite des choses va y être pour beaucoup. Si ça demeure un événement isolé, ça va être plus facile pour lui de ne serait-ce essayer de mettre en application sa nouvelle stratégie puis, les suites de son remaniement. Mais la chose qu'on sait présentement, c'est que quand même bien que le président du caucus et les députés sortent pour dire aux médias, écoutez... on pense pas comme Mme Blanchette-Vézina, le caucus est encore très uni. La vérité, c'est qu'on a ça fait quand même plusieurs drapeaux jaunes qu'on a. Il y a eu évidemment le départ de Pierre Dufour qui avait critiqué le premier ministre un peu sur le même sur un des angles que Mme Blanchette-Vézina a soulevé, c'est-à-dire la représentation régionale, dans son cas l'Abitibi. Tu sais, M. Lamontagne, exclu du caucus du Conseil des ministres, M. Bonnardel, exclu du Conseil des ministres, n'était pas présent au caucus hier. On sait qu'ils sont encore en train de digérer la nouvelle. Il y a Stéphane Sainte-Croix, le député en Gaspésie, qui avait également mentionné être très déçu, comme Mme Blanchette-Vézina, encore une fois, qu'il n'y ait pas de ministre attitré à sa région. Tu sais, on sent que tu as comme deux gangs, là. Tu as une gang de gens qui, clairement, sont derrière le premier ministre encore, et je pense que ça demeure une majorité du caucus. Et on a comme une frange qui est qui rentre peut-être dans la catégorie de ce que Mme Blanchette-Vézinette disait en point de presse, qu'elle a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Comme je te dis, je pense que ça demeure une minorité des gens dans ce caucus-là, mais il y a clairement des gens présentement qui se posent des questions et qui ont peur pour leur poste en 2026.
Ils ont peur pour leur poste en 2026, mais aussi, je pense, tout simplement à la politique, la suite politique. Quand un parti quitte le pouvoir avec tous les projets qu'il essaie de passer, on peut se poser des questions sur comment ça va aller. On travaille très fort au niveau de la santé, on travaille très fort dans certains secteurs. Est-ce que c'est une réussite? C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on est allé avec des chantiers ministériels importants. Lambert, avec un PQ qui est en continuité, constamment dans les derniers mois, vers le top, vers le sommet, vers l'élection. As-tu l'impression qu'on va repartir à zéro, veux pas, sur tout ce qu'on a mis comme chantier de construction gouvernementaux?
Tu veux dire dans l'éventualité où un gouvernement péquiste prendrait le pouvoir?
Oui, ou n'importe quel autre parti, mais que ce serait plus la CAQ au pouvoir.
Je pense que il y a des chantiers qui sont déjà amorcés. Le premier ministre était aujourd'hui en Abitibi pour faire une belle annonce au niveau des minéraux critiques.
Parce que ça, nos auditeurs, là, je te dis pourquoi je pose la question, là, sont bien inquiets. Ils veulent des changements en termes de santé, ça brasse beaucoup, on le voit avec les médecins et tout ça. Puis avec une nouvelle élection, avec un nouveau parti au pouvoir, on se demande, est-ce qu'on va retomber à zéro? Parce qu'ils trouvent qu'il y a un laxisme quand même dans le fait d'arriver à la finalité de certains projets. Et quand on y arrive, ben, des fois, ça débouche sur un échec comme la commission Galant. Je vais te dire que c'est une inquiétude qu'on voit constamment au 88-971-1021.
C'est difficile de répondre à ça, dans le sens où on ne sait pas qui va être là, on ne sait pas quelles seront leurs priorités. T'sais, si le Parti québécois rentre, ils ont certains éléments qui vont disons, concorder avec l'agenda caquiste et qui vont être un des éléments de continuité, contrairement aux libéraux qui, dans un autre, ouais. un autre niveau...
Notamment laïcité, immigration, ouais. là, ces thèmes-là de nationalisme, le PQ va les continuer.
Donc, on comprend que s'il y a un changement de gouvernance, oui, il y a des choses qui peuvent tomber. Oui, il y a des choses qui peuvent continuer. Donc, la crainte initiale de certaines personnes peut s'avérer dans le sens où il y aurait un retard ou, en fait, pas nécessairement de continuité dans certains projets.
Oui, exact. Puis, tu sais, au final, je veux dire, c'est les gens qui vont élire le nouveau gouvernement. Si les gens élisent un nouveau gouvernement, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils souhaitent du changement. C'est d'abord et avant tout parce qu'ils ne sont pas satisfaits de plusieurs dossiers, de plusieurs éléments qui ont été faits ou pas faits par la CAQ dans les 7-8 dernières années. Fait que, tu sais, je comprends la crainte des gens. Si les gens ne veulent pas voir les chantiers caquistes tomber à l'eau, ils ont toujours l'option
de voter pour la CAQ, en effet.
Mais c'est sûr que s'ils changent le gouvernement, ça apporte toujours son lot de changements.
Lambert, je termine là-dessus. L'avenir politique de Maïté Blanchette-Vézinet, si elle vient trop de se peinturer dans le coin pour qu'un autre parti politique lui fasse de l'œil?
Hey, c'est une bonne question. Moi, j'avais ma petite réflexion par rapport à ça. T'sais. Elle dit qu'elle demeure comme députée indépendante jusqu'à l'élection. Et elle dit aussi qu'elle souhaite se représenter. Ce qui implique deux choses, parce que la dernière fois qu'un député qui se présente comme indépendant a gagné une élection, c'était dans les années 60, pour te dire. Là, donc, ça n'arrive pas. Donc, si elle veut être effectivement se représenter et être réélue, elle devra nécessairement se présenter sous une bannière politique. Et là, les deux seules avenues que moi je vois dans le moment, c'est, je pense, ce qui serait sa priorité à elle présentement, ce serait. Advenant le départ de M. Legault, de se représenter pour la CAQ.
En effet, elle a ouvert la porte à ça.
Mais si le premier ministre s'accroche jusqu'à l'élection, est-ce que l'option d'aller faire de l'œil au Parti québécois...
Est-elle une souverainiste?
Moi, j'aurais tendance à dire que du peu que je la connais, je serais pas sur le cul de.
Tu tomberais pas en bas de ta chaise.
Traverser du côté du PQ. Si j'étais dans la garde rapprochée de Paul Saint-Pierre Plamondon, probablement que j'essaierais subtilement de lui placer un petit appel, juste savoir où est-ce qu'elle se situe. Parce que, mine de rien, dans leur narratif à eux, comme tu disais, Pascal, de parti qui est en montée. S'ils réussissaient en plus, non seulement d'aller chercher les partiels qu'on a vus et qu'on va voir à Chicoutimi, mais d'aller volé, en quelque sorte, une ancienne ministre caquiste. C'est sûr que ça vient encore renforcer le narratif comme quoi c'est eux qui ont vraiment le vent des voiles.
Lambert Drainville, merci beaucoup, mon chum, pour cette excellente analyse politique. Merci de nous avoir amené à l'intérieur de ce caucus des députés hier. C'est ce que j'aime quand on parle avec toi. On a les insides très précis. J'aurais vraiment pas voulu être dans la peau de François Legault hier. Ça demandait un certain courage politique à Maïté Blanchet.
Oui, courage politique, mais tu sais, tu te mets dans la peau du premier ministre. Là, t'imagines, t'es un PDG d'entreprise puis t'es sans employé. Tu te fais, tu sais, il y en a un qui s'en va puis qui te roule dans la boîte en devant tous les employés. Ça devait vraiment pas être une situation confortable pour lui. Voilà.
Voilà. On te souhaite la suite. Yes, on te souhaite un excellent week-end. On se reparle mercredi prochain.
Merci, mon gars.
Salut, Lambert. Merci beaucoup. C'était Lambert Drainville qui nous a amené dans les coulisses de cette annonce fracassante de Maïté Blanchet de Vézina. Problème de circulation, Pascal?
Oui, on peut se dire qu'il y a un accident qui se serait produit sur, je reviens, Henri IV Sud, à la hauteur Sainte-Foy, à la voie de gauche. En fait, carambolage, il y aurait 4 voitures, un trailer d'impliqués, des pompiers, ambulances aussi sur place. C'est un auditeur qui nous a rapporté le tout. 418-971-1021, c'est toujours efficace.
Oh oui, vous êtes nos yeux sur la route.
Je veux juste revenir avec un commentaire quand on parle de revoir des chantiers ministériels, là, des projets, tout ça. Je trouve ça super intéressant, la question qui revient de nos auditeurs là-dessus, parce que ça fait un peu écho à la dite question de « Voyons, vous vous souvenez jamais. Vous critiquez un gouvernement pendant des années. Quand vient le temps d'élire et puis d'être aux nouvelles élections, vous changez pas votre choix puis vous reconfirmez que vous voulez faire affaire avec ce gouvernement-là. » Puis je trouve vraiment, on a des intelligents là, qui nous écrivent, là, puis pas la majorité, qu'elle est brillante, cette question-là, puis elle est à saisir, parce que peut-être qu'on fait une réélection des fois d'un gouvernement en disant « Colin, ben, on veut pas retomber à zéro », mais qu'on n'est pas nécessairement satisfait. Puis que certains leaders politiques le prennent pour du cash. « Ah, donc, vous nous aimez. Ah, donc, toutes nos phrases qu'on a faites, vous les avez oubliées. »
C'est pas grave.
Donc, mais ça se peut que ça vienne de « il n'y a rien qui bouge ». Puis, à la force de changer les partis politiques, ben, on se retrouve avec une faiblesse à reconstruire certaines affaires puis à devoir demander plus de temps. Je pense que cette vision-là est aussi à prendre en compte. Je vous dis pas de voter pour la CAQ, c'est pas du tout ça.
Non.
C'est que j'analyse ce que vous nous envoyez comme questionnement. Les raisonnements de nos interlocuteurs, nos experts, nos conversations à toi et moi. Puis, je trouve ça... parfois intéressant, il faudrait que ça se rende au gouvernement. C'est pas parce qu'on vous dit oui qu'on a aimé ce que vous avez fait.
Puis dans le cas du changement qui s'en vient, et présentement, c'est le PQ qui est en avance dans les sondages depuis 2 ans, il faudra approfondir la question des médecins. Parce que pour le PQ, on le sait, ils l'ont dit, Santé Québec ne tiendra sûrement pas. On veut redonner plus de latitude aux gens qui sont sur le terrain. Si on prend exemple au niveau économique, on sait qu'on va réinvestir dans les PME. Pascal Paradis nous l'a dit tout à l'heure. On sait que tout ce qui est immigration, laïcité, tout ça, ça va continuer dans la continuité de la CAQ. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les médecins, là? J'ai pas réponse.
C'est vrai qu'on a peu de réponses au niveau santé, puis ça reste que c'est le gros nerf de la guerre en ce moment. Avec ce pourquoi Christian Dubé est devenu bien fatigué aussi à travers les derniers mois. Puis, tu sais, on sait que l'économie, ça s'en vient, nous l'ont dit aussi.
Ouais.
Fait que c'est vraiment le secteur où il nous manque l'info.
Vraiment. Fait que fais-moi penser la prochaine fois qu'on aura quelqu'un du PQ. On lui pose la question. Vous allez faire quoi, vous autres? Quelle guerre vous allez livrer à ces médecins-là? Et Christian Dubé a encore le temps de déposer son projet de loi. Donc, allez-vous respecter ce projet de loi-là? Ou vous allez faire des amendements, des modifications? Comment vous voyez cette guerre aux médecins-là? Ça va être intéressant de poser la question au PQ. Pascal CV, merci beaucoup pour ce bon questionnement. Merci à Lambert Drainville. On fait une courte pause. On va revenir avec l'essentiel de l'actualité. Un petit prélude sur le football de la fin de semaine. Et Émilie Pelletier, journaliste pour Le Soleil, excellente journaliste au niveau de la politique municipale. Elle a fait le lancement de sa mamade de campagne ce matin. Elle est présentement au lancement de campagne de Bruno Marchand. Elle va nous appeler et elle va nous raconter tout ça. C'est quoi l'ambiance? Bruno Marchand est-il là, des gens conquérants de la ville? Se sent-il dans le siège du conducteur?
Parce que vraiment, les élections municipales sont lancées.
Sont lancées officiellement aujourd'hui, même si ça fait depuis le mois d'avril qu'on en parle. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On en jase.